Goujon était natif du Cerche, en Limousin, de parents nobles et riches. Il était le plus jeune des trois frères qu'ils étaient. L'un de ses frères était capitaine dans le régiment de Picardie et l'autre guidon dans les mousquetaires du roi. Goujon prit aussi inclination pour les armes. On levait un nouveau régiment dans sa province, nommé le régiment d'Aubesson. La plus grande partie de la jeunesse de ce pays-là prenait partie dans ce régiment. Presque tous les officiers étaient de la noblesse du Limousin. Goujon y avait divers parents et amis, entre autres, un de ses oncles, nommé Monsieur de la Bourlie, en était lieutenant-colonel. Il n'en fallait pas tant pour donner à Goujon l'envie d'y prendre parti. Monsieur son père ne voulut pas qu'il y prît d'autre caractère que celui de cadet, afin de lui procurer par la suite une place plus distinguée dans un vieux régiment. Goujon fut équipé magnifiquement par son père, qui lui fournit et ordonna par la suite qu'on lui fournit tout l'argent nécessaire pour faire belle figure. Le régiment étant complet, partit de là et vint tenir garnison à Gravelines, petite place située à 4 lieues de Dunkerque. Goujon avait été bien élevé. Il avait fait ses études et appris tous les exercices convenables à un jeune gentilhomme, et il soutenait parfaitement bien son extraction. Toujours propre et magnifique, étant jeune et bien fait, joignant à cette dernière qualité beaucoup d'esprit, il ne tarda pas à s'attirer l'amitié et la considération de tout le monde. Et comme il fréquentait tout ce qu'il y avait de beau monde dans Gravelines, il n'y fut pas longtemps sans se faire aimer du beau sexe et sans prendre lui-même de l'amour pour une jeune demoiselle qui méritait tout son attachement. Elle était belle, spirituelle et fort riche. Elle était fille unique d'un vieil officier pensionnaire du roi qui avait des biens immenses. Ces jeunes amants s'aimaient passionnément. Il n'en fallait pas davantage pour faire beaucoup de chemin en peu de temps. S'étant promis foi de mariage, Goujon se flattait que le père de la fille la lui donnerait avec joie. Dans cette espérance, il lui en fait la demande. Mais il fut bien surpris non seulement de se voir refuser tout net, mais d'entendre le commandement que le vieil officier lui fit de ne voir ni fréquenter en aucune manière sa fille. Il fit de même des défenses très rigoureuses à sa fille de ne plus voir le cavalier sous peine du couvent. Ce contretemps affligeait extrêmement nos deux amants, qui, ne voyant aucun moyen de fléchir le beau vieillard, formèrent le projet de prendre la fuite et de se rendre dans quelque lieu où ils puissent se marier sans obstacle. Ce qui ayant été arrêté et conclu, Goujon travailla aux préparatifs de cet enlèvement. À cet effet, il fit tenir toute prête une chaise de poste hors de la ville et indiqua à sa maîtresse le jour où elle devait s'échapper de la maison de son père et se rendre à un certain endroit du rempart. La difficulté était de pouvoir sortir de la ville. Nos amants ne pouvaient le faire qu'à la faveur des ténèbres et les portes de la place se fermaient avant la nuit close. L'embarras était grand, mais l'amour, ce grand maître qui n'éclaire que trop souvent l'esprit aux dépens de la raison, suggéra à Goujon un expédient qui ne lui fut pas aussi favorable qu'il se l'était imaginé. Il y avait à un endroit du rempart une vieille brèche que l'on avait négligée. Goujon la connaissait fort bien, y ayant monté plus d'une fois lorsqu'il se trouvait trop tard hors de la ville pour pouvoir entrer par la porte. Il est vrai qu'il y avait toujours à cette brèche une sentinelle à qui il était défendu, sous peine de la vie, d'y laisser passer qui que ce soit. Mais comme il n'y avait point d'autres troupes dans Gravelines que le régiment d'Aubesson, dont tous les soldats connaissaient et aimaient Goujon, qui d'ailleurs donnait pour boire à la sentinelle toutes les fois qu'il passait par cette brèche, il se persuada que, quelques soldats qu'il y eût à ce poste, il trouverait la même facilité et pourrait y passer avec sa belle. Il fut donc au rendez-vous. La demoiselle n'y avait pas manqué. Il la prit sous le bras et la conduisait droit à cette brèche lorsqu'un malotru le sentinelle qu'il y avait pour lors, venu depuis peu de recrues et qui avait même été domestique du père de Goujon, entendant approcher quelqu'un, crie « Qui va là ?»« Ami !» répondit Goujon. La sentinelle, qui le reconnut à la voix, lui crie de ne pas approcher davantage s'il ne voulait avoir la bourre de son fusil dans le ventre. Goujon, le nommant par son nom, lui parlait amiablement, lui promettant de l'argent pour boire à sa santé s'il le laissait descendre par cette brèche. La sentinelle, qui prenait son ordre à la lettre, lui répondit que, pour tout l'argent du monde, il ne voulait pas risquer à se faire pendre. Goujon avançait cependant, mais la sentinelle l'ayant encore averti de se retirer, et voyant qu'il avançait toujours, le couche en joue. Mais l'amorce de son fusil n'ayant point pris, Goujon, animé de fureur, saute aussitôt sur ce soldat et l'ayant pris au travers du corps dans ses bras, le jette du haut du rempart dans le fossé qui était sec. Cette sentinelle, qui n'eut cependant aucun mal de sa chute, s'écrie comme un perdu. Il y avait près de là une porte de la ville et à côté un bureau de la douane dans lequel se divertissaient une douzaine de commis, tous bourgeois de la ville. Dès qu'ils entendirent crier la sentinelle qui était dans le fossé, ils sautèrent tous à leurs armes et sortirent pour se rendre à l'endroit où était Goujon. Les uns armés de pistolets et les autres d'épées et de sabres en criant « Aide au roi !» Goujon, voyant venir cet orage et ne pouvant se sauver sans exposer sa maîtresse, qui aurait été déshonorée pour toute sa vie s'il lui abandonnait, prit un parti plus généreux. « Sauvez-vous promptement, mademoiselle, lui dit-il, et faites en sorte de gagner votre logis, pendant que je tiendrai tête à ces gens-là pour favoriser votre retraite. » Ce qu'elle fit, sans que personne s'en aperçût. Cependant, Goujon fut entouré et attaqué par ses 12 commis. Il mit l'épée à la main et ne s'en servit que trop bien pour 4 de ses malheureux, qu'il renversa roi de mort et en blessa divers autres, non sans recevoir lui-même plusieurs blessures. Or, il se trouva qu'il y avait près de là un petit cabaret, où était pour l'heure un sergent de la compagnie de Goujon, qui, entendant les cris et le cliquetis des armes, sortit et demanda ce que c'était. Goujon, reconnaissant sa voix, lui cria « C'est moi, mon ami Lamotte, qu'on assassine !» Lamotte met l'épée à la main, court sur l'un de ses commis qui avait un pistolet à la main qu'il déchargea sur Lamotte, qui, dans le même moment, plongea son épée dans le corps du commis, et par ce coup foré, ils tombèrent tous deux rois de mort. Pendant ce massacre, le corps de garde le plus prochain, entendant crier « Aide au roi !» avait donné l'alarme à toute la garnison, qui fut d'abord sous les armes, et se rendit vers l'endroit où s'était donné le combat. Goujon était tombé par terre par la faiblesse que lui causait la perte de son sang, qui coulait de 4 blessures, savoir 2 coups d'épée au travers du corps, un coup de sabre sur la tête et un autre à la main droite qui lui avait fait tomber son épée de la main. Cependant, le major de la place, qui était accouru avec les postes des corps de garde les plus prochains, fit enlever les morts et blessés, de même que ceux qui ne l'étaient pas, et provisionnellement les fit tous porter ou conduire à l'hôpital de la ville. Tous les officiers du régiment, surtout le lieutenant-colonel, qui se trouvait alors commandant du dit régiment, pour sauver Goujon, prirent cette affaire fort haut contre les commis, les accusant de rébellion, meurtre et assassinat des gens du roi. On pallia, et même on supprima le fait de la sentinelle jetée du rempart en bas par Goujon, qui était le mobile et le fondement de tout ce grand meurtre. D'ailleurs, 12 bourgeois contre 2 gens de guerre formaient une circonstance fort désavantageuse contre ces commis. Et on en profita pour sauver Goujon. Et quelque injustice qu'il y eut de sacrifier les 7 commis qui restaient, on agit contre eux avec la dernière rigueur. Le conseil de guerre se saisit de cette affaire, et après l'avoir examinée, rendit sentence fort précipitamment. Elle justifiait Goujon, et le louait d'avoir en homme d'honneur, à son corps défendant, et pour le service du roi, tué 4 bourgeois de 12 qu'il avait attaqués, et elle condamnait les 7 commis qui restaient à tirer au sort pour y en avoir 3 de pendus et 4 condamnés aux galères perpétuelles. Toute la bourgeoisie de la ville se récria contre la sentence du conseil de guerre. Le magistrat prit cette affaire à cœur et fut encore chez le gouverneur pour protester de la connaissance de la cause que s'était attribué le conseil de guerre contre des bourgeois au préjudice des droits de la magistrature, qui ne pouvait voir sans beaucoup de désagrément la sentence rendue contre les citoyens et contre laquelle elle faisait ses protestations. Le gouverneur fut en même temps supplié de faire sursoir l'exécution de cette sentence, afin que le magistrat pût verbaliser et adresser sa supplique au roi, pour lui demander la connaissance du procès à l'exclusion du conseil de guerre, afin que, si les commis se trouvaient réellement coupables, il fût procédé contre eux suivant la rigueur des lois. Le gouverneur, ne pouvant refuser une demande si raisonnable, leur accorda le délai de 30 jours pour l'exécution de la sentence du conseil de guerre et ordonna, à la réquisition du magistrat, que Goujon fût transféré à la prison de la ville jusqu'à décision du procès, ce qui fut exécuté. Le magistrat fit son procès verbal, alléguant honnête et avec preuve de vérité de quelle manière la chose s'était passée. On n'oublia pas d'y insérer le crime de Goujon, d'avoir forcé la sentinelle et jeté du rempart dans le fossé. Il fut encore prouvé par ce procès verbal que les commis, prenant le parti du roi et celui de la pacification, avaient prié, avant d'user d'aucune hostilité, le dit Goujon de mettre armes bas de la part du roi. Mais que Goujon, très irrespectueusement, avait répondu « Que le roi et toute sa famille saillent faire tout outre !» Cette imprudence coûta bien cher à Goujon, car le roi, qui en fut pleinement informé, n'a jamais voulu le lui pardonner. La cour, après l'examen du procès-verbal, ordonna que la sentence du conseil de guerre serait mise à néant et remettant la connaissance de la cause au magistrat, lui enjoignit d'y procéder suivant la rigueur des ordonnances. En conséquence des ordres de la cour, le magistrat prononça sentence définitive qui, mettant les parties hors d'appel, mit les commis hors de cour et de procès, et condamna Goujon à être pendu, lui laissant le choix, à cause de sa qualité, d'être arquebusé au pied de la potence. On peut juger de la consternation que cette sentence causa dans tout le régiment. Le lieutenant-colonel, oncle de Goujon, en fut au désespoir. Il courut d'abord chez le gouverneur, le suppliant instamment de ne pas permettre l'exécution de cette sentence et de lui accorder le délai de 12 jours. Le gouverneur le lui accorda et sur le champ, ce lieutenant-colonel prit la poste et fut en cour pour solliciter la grâce de son neveu. Il se jeta aux pieds du roi, le suppliant à main joigne d'accorder la grâce de Goujon, tâchant de toucher sa majesté par les endroits les plus sensibles. Mais le roi, piqué de l'irrévérence insolente que Goujon avait commise contre lui et la famille royale, resta inflexible. Le lieutenant-colonel ne se rebuta pas. Il remua ciel et terre et fit solliciter Madame de Maintenon, dont personne n'ignorait le pouvoir qu'elle avait sur le roi. Elle prit cette affaire à cœur et, malgré la répugnance de ce monarque à pardonner Goujon, elle obtint sa grâce de sa majesté, qui voulut que Goujon restât toute sa vie forçat sur les galères de Dunkerque, ajoutant qu'il ne voulait pas qu'on lui en parlât davantage. Le lieutenant-colonel revint en diligence à Gravelines, portant avec lui cette commutation de la peine de mort à celle des galères perpétuelles. Il fut descendre chez le gouverneur, à qui il remit cette sentence, avec l'ordre du roi en ces termes, qu'il entendait et prétendait que Goujon fut conduit aux galères sans connivence, et que sa tête et celle du commandant de la garnison en répondraient. Le lieutenant-colonel en consulta avec le gouverneur, et ils conclurent que, pour empêcher que la garnison ne formât le dessein d'enlever Goujon, soit dans la ville ou en chemin, on feindrait que Goujon avait obtenu sa grâce pleine et entière, aux conditions seulement de servir de soldat à la compagnie du chevalier de Langeron, commandant des galères de Dunkerque. Cela étant ainsi arrêté, le lieutenant-colonel s'en alla à la prison où Goujon était déjà entre les mains de 2 capucins qui l'exhortaient à la mort qu'il devait subir le lendemain. D'aussi loin que le lieutenant-colonel le vit, il lui cria « Courage, mon neveu, tu ne mourras pas. J'ai obtenu la grâce entière et le roi a ordonné que tu serviras en qualité de soldat dans la compagnie du chevalier de Langeron. Cette punition n'est rien, puisque nous t'en sortirons bientôt en obtenant pour toi un brevet d'officier. Demain, 2 archers pour la forme seulement te viendront prendre pour te conduire à Dunkerque et te présenter au chevalier de Langeron. Ainsi, tu seras libre en étant soldat. » Goujon donna dans le panneau facilement. Le lendemain, 2 archers qui avaient le mot et leurs ordres viennent à la prison, font civilité à Goujon, lui disant qu'ils allaient monter tous 3 à cheval pour Dunkerque, non pas comme menant un prisonnier, puisqu'il ne l'était plus, mais comme faisant une partie de promenade. Goujon, très persuadé de ce qu'on le faisait à croire, fut fort content de son sort, ainsi que tous les officiers du régiment, qui n'en savaient pas plus que lui, et qui vinrent en foule à la prison pour le féliciter et lui souhaiter un bon voyage. Enfin, il monte à cheval avec ses 2 archers et se met en chemin. À quelque distance de la ville, un des archers affecta quelques nécessités et se tint derrière Goujon tandis que l'autre était devant. Étant arrivé dans cette disposition dans les dunes au milieu d'un chemin creux et étroit, l'archer qui allait devant tourne brusquement bride sur Goujon, le pistolet à la main, lui disant qu'il lui casserait la tête s'il faisait la moindre résistance. Pendant que cet archer donnait ainsi Goujon en respect, l'autre qui s'était préparé lui attacha les jambes sous le ventre du cheval et lui mit les fers aux mains. On peut juger de l'affliction de ce jeune homme qui s'imagina d'autant plus facilement qu'on allait le faire mourir, qui, en demandant aux archers sa destinée, ils lui répondirent brutalement qu'ils la connaîtraient lorsqu'ils seraient sur les lieux. Ils arrivèrent dans cet état à Dunkerque et conduisirent Goujon sur l'autre galère et le livrèrent à un gousin qui le fit dépouiller de ses habits galonnés et revêtir d'une casaque rouge. Ensuite, on lui coupa les plus beaux cheveux que j'ai vus de ma vie et on le mit à la chaîne dans un banc. Cependant, les recommandations qui venaient de toutes parts à notre capitaine en sa faveur lui firent adoucir ses peines. Le capitaine ordonna qu'on le mit au paillot pour distribuer les vivres à la chourme et à l'équipage et n'exempta d'aucune autre manœuvre. Il fut aussi déchaîné nuit et jour et on lui laissa seulement un anneau au pied comme une marque de servitude. Je fis bientôt connaissance avec lui. C'était un garçon d'esprit et d'une agréable conversation. Je n'avais su d'abord son histoire qu'en gros. J'en appris seulement les particularités lorsqu'en 1709, On me mit au paillot avec lui, comme je l'ai déjà dit.